Voilà, je voulais vous poser une question cet après-midi, encore une fois. J'espère que, comme disait Joël, je ne vais pas vous endormir. J'espère que je ne vais pas retrouver la moitié de l'église endormie avant la fin de ce moment. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qui vous êtes ? C'est une question qu'on se pose de temps en temps. Qui je suis ? Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Quel est le but de ma vie ? C'est une question banale, mais essentielle. Et cette question, on peut se la poser pour plusieurs raisons. La première, c'est quand il se passe des choses dans nos vies qui ne nous plaisent pas, ou quand on n'est pas celui qu'on voulait être, et on se dit, mais qui je suis ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est une question importante, une question qui touche directement à nos cœurs et à nos âmes. Je voulais juste vous partager un petit témoignage d'un jeune homme. J'ai rencontré un jeune homme un jour, et il est devenu mon ami. Et ce jeune homme savait qui il était. Il est d'origine italienne. Alors, j'ai rien contre les Italiens, hein. Je suis un tout petit peu italien, donc j'ai rien contre les Italiens. J'aurais pu citer les Corses, mais je sais qu'il y en a trop dans la salle pour ça. J'ai rien contre les Italiens, mais il était italien, et... ce qui m'a toujours étonné avec lui, c'est que quand on lui posait une question, il réfléchissait suivant ses origines. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça. Et on lui disait, par exemple, quel est le plus bel accent du monde ? Bien sûr, l'italien. Bon, beaucoup diront ça dans la salle, peut-être. Mais quel est le plus bel accent du monde ? L'italien. Quel est le plus beau pays du monde ? Ben, l'Italie, forcément. Et on lui demandait, mais quelle est la plus belle voiture ? Forcément, il disait Ferrari. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Ferrari. Et il disait, quel est ton plat préféré ? Et là, il réfléchissait, il nous disait, les pâtes. Les pâtes, c'est mon plat préféré. Ça m'a étonné, je me suis dit, mais en fait, chaque fois qu'on lui pose une question, pour lui, il pense suivant ses origines. Qui il est ? En fait, ses origines ont fait de lui qui il est. Mais quand on creusait un peu, quand on allait plus loin dans les conversations, quand on lui demandait... vraiment ce qu'il ressentait sur la vie, sur sa vie, sur ce qu'il était en train de faire, on voyait qu'il y avait un manque. On peut avoir même une personnalité marquée, mais avoir un manque dans sa vie. Et la question « qui je suis » est importante encore cet après-midi. Qui je suis réellement ? On va ouvrir la parole de Dieu dans Ruth. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Ruth, chapitre 1er, verset 1er, donc c'est au début de la Bible. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Quand on continue la lecture, on voit qu'une va la suivre et l'autre non. Celle qui va la suivre, c'est Ruth. Et on arrive à la fin du premier chapitre. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. » Verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Amen. On voit cette famille. C'est une famille qui habite à Bethléem, dans un endroit où on croit en Dieu, dans une ville où il y a beaucoup de croyants. Et cette ville veut dire la maison du pain. La maison du pain. Mais dans cette maison du pain, il n'y avait pas de pain. C'était une famine. Et elle va prendre un choix avec son mari. Ils vont prendre un choix de partir. Ils vont prendre le choix d'aller loin, dans le pays de Moab, un peu plus loin, à peu près 80 kilomètres d'ici. Et dans un autre pays, elle va partir. C'est un choix qui lui paraissait peut-être sensé, qui lui paraissait peut-être bien. Et elle va arriver dans ce pays et il va se passer un drame. Son mari meurt. Son mari meurt. Un peu plus tard, ses filles se marient et leur mari meurt aussi. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le contexte, mais nous, en tant qu'Occidentaux, on est là et quand il y a un deuil dans la famille, c'est dur. Mais à cette époque, quand il y avait les fils et le mari qui mouraient, quand il n'y avait plus d'hommes dans la famille, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, elle est en train de perdre son mari, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, son fils, ses deux fils. Mais elle n'a plus aucun droit dans sa maison. Elle n'a plus aucun droit en Israël. Elle est comme à la rue, on dirait maintenant, elle s'est retrouvée à la rue, sans rien. Et cet événement, ce qui va se passer, cette expérience, va faire qu'elle va dire, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, ça veut dire agréable, beauté, grâce. Elle va dire, appelez-moi Mara, amertume. Combien de choix nous faisons dans nos vies? Et surtout, combien de mauvais choix? Il y avait une famille qui était heureuse. C'était un couple et ils avaient un fils. Et ce fils voulait un scooter. Alors le père disait, non, je ne sais pas trop. C'était un peu un père qui gardait bien ses enfants. Il dit, je ne sais pas trop, c'est un peu dangereux le scooter. Je ne veux pas trop t'en acheter. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Alors le fils dit, d'accord. Un peu plus tard, il revient. Papa, je veux un scooter, s'il te plaît. Et le père dit, non, encore, attends encore un peu, c'est encore dangereux, tu es encore jeune, je ne sais pas ce qui peut t'arriver, encore, attends encore un peu. Et à force d'insistance, le père va accepter d'acheter ce scooter à ce jeune homme. C'est une histoire vraie, hein, ce scooter à ce jeune homme. Et tout va bien, il est heureux, il est ultra heureux de recevoir ce scooter. Il est content. Et un jour, il va être comme ça en train de rouler et il va avoir un accident. Et ce jeune homme va perdre la vie à ce moment-là. Ce père, qui avait basé sa famille autour de lui, qui était bien dans sa vie, qui avait une vie heureuse, sa vie va basculer. Et vous savez quoi? Il va même s'en vouloir. Il va avoir des remords. Il va dire, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi j'ai choisi de céder à ce moment-là? Pourquoi j'ai fait ça? C'est ma faute s'il est parti. Ce n'était pas forcément de sa faute. Mais vous voyez comme quoi un choix peut tout changer. Un choix peut détruire nos vies. Il est passé d'une vie heureuse à une vie triste, à une vie d'amertume, à cause d'un choix. Cette femme est un peu pareille. Elle est partie heureuse, grâce, agréable, beauté. Cette Naomi, elle est partie remplie de joie, avec de l'espoir, et elle revient pleine d'amertume. Son mauvais choix, à elle, c'était de quitter le peuple de Dieu. C'était de quitter sa maison, là où il y avait l'Éternel. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, des fois, on se dit, mais il y a la famine au milieu de nous. Il y a la famine dans notre église, il y a la famine dans notre famille. Il y a la famine. Et on se dit, mais oh, ça sera mieux ailleurs. Là-bas, ils sont bénis, là-bas, ils vivent des miracles, là-bas, ils vivent des choses extraordinaires. Et on quitte l'église. Et on finit par s'écarter de la voie que le Seigneur avait préparée pour nous. Bethléem, la maison du pain. C'était une promesse. Hein. C'était une promesse que le Seigneur était là, qu'il allait pourvoir. Mais elle est partie. Elle a fait ce mauvais choix. Combien de fois on entend des personnes dire « Mais je n'ai pas besoin de Dieu. C'est pas peu pour moi, ça ne m'intéresse pas. » Même des fois se moquent de Dieu, se moquent de la vie chrétienne. C'est quoi ces chrétiens? Ils se rassemblent, ils vont ensemble, ils prient, ils élèvent la voix, on ne sait pas trop à qui, ils chantent des chants. Il y a un homme qui nous endort pendant quelques minutes. C'est quoi ces fous? Il y en a qui se moquent comme ça. Il y en a qui disent, mais Dieu, mais s'il existait, pourquoi il y aurait tout ça? Alors tous ces problèmes, toutes ces maladies, toutes ces guerres. Pourquoi? Dieu peut pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez, dans la Bible, il est marqué, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Notre place est nous retrouver dans la présence du Seigneur ensemble. Elle est là, notre place. Et peut-être que tu ne connais pas l'Église. Peut-être que tu ne connais pas la foi. Peut-être que c'est la première fois même que tu en entends parler. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Où va cette histoire? Sa vie est détruite. Elle est passée de Naomi, agréable beauté, à Mara, amertume. Et peut-être c'est ton cas cet après-midi. Tu as fait des choix. Tu as perdu ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Parce que les choix que tu as fait dans ta vie, ce qui s'est passé dans ta vie, ont fait que tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus où aller. Il n'y a plus de but. Il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus rien. Beaucoup sont allés jusqu'à se donner la mort, vous savez, pour cela. Ma vie est remplie d'amertume. Je me regarde dans la glace et je me déteste. Je me dis, mais t'aurais jamais dû faire ça. T'as vu qui tu es, mais t'es mauvais. Qu'est-ce que tu fais sur terre? Pourquoi t'es né, sincèrement? Ce sont toutes des choses qu'on peut se dire. On peut être rempli d'amertume. Mais dans la réaction de Naomi, on voit encore quelque chose de différent. On va le lire ensemble à partir du verset 20. On va le relire. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? La réaction à Naomi, c'est plus que se dire, mais je ne suis plus rien. Je ne suis rien, je ne sais pas qui je suis. Elle va lever comme le poing vers le ciel. Et vous savez, quelqu'un disait que quand on montre du doigt quelqu'un, on en a trois vers nous. C'est vrai, hein, on l'entend souvent. Quand on pointe, c'est mieux comme ça, pointe du doigt vers quelqu'un, on en a trois vers nous. Il est important de savoir si tout ce qui arrive dans ma vie, si tout ce qui se passe, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le manque de Dieu dans ma vie? C'est important de comprendre ça. C'est important de savoir pourquoi j'ai de l'amertume, pourquoi j'ai fait ces choix-là. Est-ce que c'était des choix qui étaient avec Dieu ou est-ce que c'était des choix où j'étais sans Dieu, sans lui? Elle va lever le doigt vers le ciel en disant, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a détruit ma vie. C'est l'Éternel qui m'a rempli d'amertume. Et plusieurs fois, on peut dire, mais si Dieu existait, il ne me serait jamais arrivé ça. Jamais j'aurais connu la violence. Jamais j'aurais connu la peine, la souffrance dans ma vie. Si Dieu existait, il n'aurait pas permis. Mais tu sais, Dieu nous laisse libres. Personne n'a obligé qui que ce soit à croire en lui, et lui encore moins. Personne n'a obligé qui que ce soit à faire des choix comme il a envie. Chacun est libre devant Dieu. Une fois, j'ai rencontré une femme sur le marché, je vous en avais peut-être déjà parlé, mais une dame sur le marché qui s'arrête, et c'était après les attentats terroristes qui a marqué quand même notre pays, et elle s'arrête, et elle dit « Dieu, il était où hier soir ?»« Dieu, il était où ?»« Il était au Bataclan avec les gens ?»« Dieu, il était où hier soir ?» Et elle part, elle attendait bien sûr pas de réponse. Elle part de suite et dans mon cœur, j'étais triste. Je me dis, mais ce n'est pas Dieu qui était derrière les armes. Ce n'est pas Dieu qui était là. Ce n'est pas Dieu qui a fait le mal. C'est le manque de Dieu. Comment faire les choses bien sans Dieu dans notre vie? Comment faire les bons choix sans savoir le lendemain? Lui seul sait le lendemain. On peut lever le doigt vers le ciel et dire, c'est de la faute de Dieu. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Mais il est bon de regarder vers nous, vers nos cœurs. Regarder quelle part on lui a laissé. Regarder si on était entièrement à lui. Regarder si c'est lui qui nous a fait du mal ou si c'est nous-mêmes. L'être humain est mauvais dans l'ensemble. Nous sommes tous mauvais, nous avons tous péché. Mais Dieu est amour. Et Dieu t'aime cet après-midi. Et il a un amour qui surpasse tout. Il ne veut pas nous regarder en train de mourir. Il ne veut pas nous regarder en train de tomber jusqu'à aller en enfer. Alors il a donné une solution. On la trouve dans Jean 3,16, c'est un verset que vous connaissez tous. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, Jésus a grandi parmi nous. Il a grandi sur la terre et il est allé au milieu de nous avec des hommes. Mais son identité, il savait qui il était. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup se sont demandé qui il était réellement. Se sont demandé, mais qui est cet homme? On voit par exemple dans Matthieu 3,17, je vais le lire pour vous. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y est opposé en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On voit à ce moment-là que beaucoup étaient là et peut-être ne savaient pas qui il était. Jean savait qui il était. Il va dire, mais c'est pas à toi de te faire baptiser par moi, c'est l'inverse. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de fabuleux. Les cieux s'ouvrent et Dieu dit, il est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus sait qui il est. Mais on voit par exemple dans un autre endroit, dans son village, que même ceux de son village qui l'ont vu grandir, ne vont pas savoir qui il est réellement. Ils vont être là et ils vont dire, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'y a-t-il pas ses frères et ses sœurs autour de nous? Comment peut-il parler comme ça? Comment peut-il dire qu'il est venu pour sauver? Ils étaient à côté de lui et ils ne savaient pas qui il était. Et peut-être tu as entendu parler de Dieu. Et peut-être tu es là cet après-midi. Mais tu ne sais pas qui est Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui est important pour ta vie. C'est le choix le plus important que tu peux faire dans ta vie, c'est de le connaître. Parce que lui, il sauve. Lui, il transforme. Et j'aimerais tellement que vous sortiez de ce lieu. Que vous sortiez de ce lieu en l'ayant rencontré. Que vous ne sortiez pas de ce lieu sans connaître qui est Jésus. Peut-être votre identité, vous ne la connaissez pas pour l'instant. Peut-être vous posez des questions encore. Mais il est important de savoir qui est Jésus. Parce que c'est lui qui va changer votre vie. C'est lui qui va transformer votre vie. On voit aussi, par exemple, des hommes religieux qui vont se poser beaucoup de questions sur lui. En sachant trop qui il est, Il y a un gouverneur aussi, Pilate, qui s'est posé des questions. Il rentre dans le prétoire, alors que Jésus a été vendu, qu'il a été amené dans ce prétoire pour être crucifié. Il a été amené pour être jugé. Et à ce moment-là, Pilate va lui dire, « Mais es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» En fait, il a cet homme avec lui, il a cet homme-là dans ce lieu, il sait qu'il va aller à la mort, mais il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas, il dit, « Mais est-ce que tu es le roi des Juifs ? Est-ce que tu es celui qui est venu délivrer ?» Il a en face de lui, mais il ne réalise pas qui il est. Plus étonnant encore, ces disciples-là, on va le lire ensemble si vous voulez. Dans Matthieu 8, 23. À côté de Jésus, il y avait des disciples, il y avait des hommes qui le suivaient. Et ses disciples étaient avec lui 24 heures sur 24. Quand on est 24 heures sur 24 avec quelqu'un, je ne sais pas pour vous, les maris pour leurs épouses, les épouses pour leurs maris, vous pouvez peut-être le dire, mais on se connaît par cœur. On sait qui est l'autre, normalement. Hein. Si vous vous parlez, normalement, hein, il faut se parler un petit peu quand même. Donc, on sait qui est l'autre. Et là, ils sont 24 heures sur 24 avec lui. Il va se passer une chose étonnante. Chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On parle de Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer et il eut un grand calme. Écoutez bien. Ces hommes furent saisis d'étonnement et dirent, « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ils sont 24 heures sur 24 avec Jésus pendant plusieurs années et ils ne vont même pas savoir qui est celui qui est à côté d'eux. Ils ne vont même pas comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu pour sauver l'humanité. Et on l'a entendu déjà dans les chants. Et ça a préparé nos cœurs, ces chants. Tous ces chants de reconnaissance, mais ces chants aussi qui nous parlent d'un Jésus venu sur la croix. Il est venu donner sa vie. Ça a préparé nos cœurs. Mais il y a un homme qui a réalisé réellement qui était Jésus. Cet homme, c'est un de ses disciples. Au moins un, c'est bien, sur 12. Il y en a au moins un qui savait qui était Jésus. On le trouve dans Matthieu 16, à partir du verset 13, je le lis pour vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» C'est une question importante. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est lui que tu dois rencontrer cet après-midi. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas seulement un Jésus qu'on te parle, le Jésus sur la croix ou le Jésus sur un petit crucifix que tu as déjà vu dans une chambre, dans un hôtel, quelque part. Non, Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est là cet après-midi et il veut te rencontrer. Il t'appelle et il t'aime. Jésus savait qui il était, mais ses disciples ne savaient pas, pour la plupart. Et il va dire à un homme un jour, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ça peut paraître étonnant, naître de nouveau. D'ailleurs, cet homme n'a pas compris du tout. Il va dire, mais comment je peux revenir dans le ventre de ma mère ? Il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'avait pas compris non plus celui qu'il avait en face de lui. Et Jésus va lui expliquer. Il faut naître de nouveau. Il faut avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, on la trouve seulement en lui. Une vie changée. Et peut-être que, pour reprendre la pensée de départ, peut-être que tu te dis, mais je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ma vie, je ne sais plus où je vais. Mais ta vie peut changer cet après-midi. si tu rencontres Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, si tu veux le rencontrer, tu peux naître de nouveau. C'est-à-dire, tu peux changer de vie. Tu peux être prisonnier et être délivré. Tu peux être malade et guéri. Tu peux être drogué et délivré. Tu peux être dépressif et joyeux. Tu peux vivre le miracle dans ta vie. Mais tu peux vivre surtout ce renouveau, cette vie nouvelle. Vous savez, des fois, il y a des réputations, il y a des choses qui nous collent à la peau. Et quand on va à un endroit, on dit, oui, voilà, lui, c'est un tel, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Lui, si t'imaginais ce qu'il a fait, mais Jésus veut changer ça totalement. Jésus veut transformer ta vie. Il y a plusieurs hommes qui l'ont vécu. Il y a un Saul qui respirait la menace et le meurtre. Il est devenu le prédicateur des païens. Il a mené combien de personnes à Jésus-Christ ? On peut voir aussi Simon, l'impulsif, qui sera son disciple. Et il va devenir Pierre. Et Jésus va dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a changé sa vie. On peut voir un jeune Jacob, on a parlé dimanche dernier avec la jeunesse, qui est devenu Israël, qui est devenu le père d'une grande nation qu'on connaît maintenant sous le pays d'Israël. Et combien d'entre nous pourraient monter cet après-midi, venir ici et dire « Jésus a changé ma vie ». On peut lever la main peut-être. Qui peut dire « Jésus a changé ma vie » ? Amen, alléluia. Chaque personne qui a levé la main pourrait venir là et dire « Mais j'étais comme ça, j'étais malheureux, j'étais triste, j'étais dans le péché et Jésus m'a sauvé. Jésus a changé ma vie. » Et ce message, il est pour toi cet après-midi. Si tu l'acceptes dans ton cœur, tu peux vivre une vie nouvelle. Pour revenir à Naomi, elle va vivre une sorte de nouvelle naissance. Elle qui se faisait appeler Mara, amertume. Le Seigneur va la guider. Et vous pourrez le lire dans le livre de Ruth. Voilà, si vous avez du temps ce soir, vous pourrez lire le livre de Ruth, qui est très intéressant, c'est 4 chapitres. Et le Seigneur va les bénir, toutes les deux, Ruth et Naomi. Il va les guider sur une voie qu'elles n'imaginaient même pas. Il va pourvoir d'une manière exceptionnelle. Et pour finir, on va lire la fin du livre, Ruth 4, verset 13. Ruth 4, verset 13. Ruth va rencontrer un homme, et cet homme va être son mari par toutes sortes de coïncidences, mais en fait, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein. Et vous pourrez le lire dans ce livre de Ruth, mais cet homme s'appelle Boaz. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. On voit à la fin de ce livre, Dieu a pourvu et il est même dit que Dieu pourvoit un enfant pour Naomi, elle qui a perdu son mari, elle qui a perdu ses fils. Au travers de sa belle-fille, il va pourvoir à un enfant et elle va l'adopter comme son enfant. Mais il y a un mot que je voulais m'arrêter sur ce passage qu'on vient de lire. Il est dit à un moment, cet enfant restaurera ton âme. Cet enfant restaurera ton âme. Le mot utilisé en hébreu veut dire bien sûr restaurer, mais on trouve aussi le sens retourner. Revenir. Et on trouve dans d'autres versions, cet enfant te fera revenir ton âme. Cet enfant va te faire revenir à la vie. Revenir à la vie. C'est plus qu'une parole d'encouragement qu'elles sont en train de donner là. C'est plus qu'une parole comme ça, dit à la va-vite, mais cet enfant va restaurer ton âme. Non. Il y a une parole prophétique derrière. Il y a une parole forte. elle, Naomi, sera heureuse. Elle va avoir un enfant au travers de sa belle-fille. Elle va être heureuse, c'est vrai. Mais quand on réalise qui est cet enfant, cet enfant qui est le grand-père de David, mais David, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et quoi de mieux pour restaurer son âme que Jésus-Christ dans sa vie? En fait, cet enfant va être l'ancêtre de celui qui va changer les vies, celui qui va restaurer, celui qui va redonner la vie à celui qui ne l'a plus. Elle va être bénie au-dessus de tout. Et à partir de ce moment, elle ne se fera plus jamais appeler Mara. Plus jamais. On va rentrer dans le recueillement. Cet après-midi, tu peux naître de nouveau. Cet après-midi, tu peux vivre cette restauration dans ta vie. Tu peux vivre ce renouvellement de vie. Tu peux passer de la mort à la vie, mais tu peux passer aussi de la dépression à la joie. Tu peux passer de la maladie à la guérison. Tu peux passer de cet état d'amertume dans ton cœur à un état de bonheur, à un état de joie, à un état de paix. Et Seigneur, le Seigneur t'appelle. Il veut te redonner la joie, le goût à la vie. Tu avais un goût d'amertume dans ta bouche, mais il veut te donner un goût agréable à la vie. Il veut que tu retrouves son identité. Parce que ton identité, tu peux la retrouver qu'en Jésus-Christ. À l'origine, c'est Christ qui t'a formé dans le ventre de ta mère. C'est la Bible qui le dit. Il t'a tissé dans son ventre. Et tu t'es écarté, tu as perdu ton identité. Mais tu peux la retrouver en lui parce qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu veux que les choses redeviennent nouvelles dans ta vie cet après-midi, je vais juste te demander un geste, un effort, juste minuscule. Pendant qu'on reste dans le recueillement, et on n'a pas besoin de regarder, on n'a pas besoin de voir, et moi non plus, je n'ai pas besoin de regarder, mais je vais prier pour vous. Mais pendant que je prie, je vous demande juste de lever votre main. En disant, Seigneur, dans votre cœur, en disant, Seigneur, je t'accepte. Je veux vivre la restauration. Je veux vivre le renouvellement. Alors, pendant que je prie pour vous, pendant qu'on reste les yeux fermés, levez votre main en signe d'acceptation vers le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs qui sont là, tu vois ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu vois ceux qui sont peut-être dans l'amertume. Tu vois cette vie qui a été difficile. Tu vois la peine, Seigneur. Tu vois la souffrance. Je te prie de restaurer cet après-midi. Je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de transformer, de faire passer de la mort à la vie, Seigneur. Parce que c'est pour ça que tu es venu à la croix. C'est pour ça que tu as donné ta vie et que tu es ressuscité. Pour qu'on puisse revivre en toi. Alors Seigneur, agis dans les vies maintenant. Tu vois les mains levées, tu vois chacun, Seigneur mon Dieu, qui est là devant toi seul et qui t'accepte, Seigneur. Remplis leur cœur de paix. Remplis leur cœur de ton amour, Seigneur. Fais-leur découvrir la joie selon ton cœur, Seigneur. Et qu'ils puissent dire en sortant de ce lieu, « Ça y est, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. » Merci Seigneur pour ces moments. Parce que c'est une grâce de t'appartenir, une joie chaque jour. Je te loue et je t'adore. Merci Seigneur. Amen.